VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. République centrafricaine, Michel Djoto Dial, ex-chef de la rébellion centrafricaine Séléka, qui avait pris le pouvoir par les armes en 2013, est rentré ce vendredi à Bangui après 6 ans d'exil et moins d'un an avant la présidentielle prévue dans le pays, où les groupes armés contrôlent encore plus des 2/3 du territoire. Monsieur Djoto Dia, unique et éphémère chef de l'État musulman de l'histoire centrafricaine, est arrivé dans la capitale à bord d'un vol du Royal Air Maroc en provenance de Casablanca via Douala au Cameroun. Il est suivi de près par des officiers de l'armée et de la police centrafricaine chargés de sa protection. Selon son entourage, Michel Djoto Dia doit être reçu aujourd'hui par le président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016. 2020 sera une année de paix. Je ne suis plus un homme de guerre, je suis un homme de paix, a déclaré M. Djoto Dia à des journalistes. Rappelons que le 6 février 2019 à Khartoum au Soudan, un accord de paix a été signé non seulement entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, mais aussi entre ces groupes eux-mêmes. Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, la cour d'appel de Bamako a renvoyé le procès du général Amadou Ayassane Ogo et de ses co-accusés à une nouvelle session. Ce procès reporté il y a 3 ans devait s'ouvrir lundi prochain. L'ex-chef de la junte et ses co-prévenus sont accusés dans l'affaire de la disparition de 21 militaires bérets rouges. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le procès de Amadou Ayassane Ogo et co-accusé devrait s'ouvrir le lundi prochain. L'audience devrait se tenir à Bamako. L'ex-chef de la junte et ses co-prévenus sont accusés dans l'affaire de la disparition de 21 bérets rouges. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako indique qu'en raison des contraintes majeures liées à la préservation de l'ordre public et la cohésion au sein des forces armées mobilisées pour la défense de la patrie, le procès de Amadou Ayassane Ogo est reporté à une prochaine session de la cour d'assises de Bamako. D'autres personnes indiquent que c'est le cas de Ibrahim Dairou Dembélé, actuel ministre de la Défense, qui a entravé la tenue de ce procès, car ce dernier doit se rendre à Pau le lundi prochain avec le président de la République dans le cadre de la rencontre entre le président Macron et le président du G5 Sahel. Il faut signaler qu'il y a 3 ans qu'il y a eu le renvoi de ce procès. Les juges avaient ordonné à la demande des avocats de la Défense une nouvelle expertise médicale des corps des 21 bérets rouges, car la première n'ayant pas été conduite conformément à la loi malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Niger, 25 soldats nigériens sont morts hier dans une attaque contre un camp militaire situé à la frontière avec le Mali. L'assaut a été mené par des hommes armés venus à bord de motos et de véhicules. 6 autres militaires sont blessés, selon le ministère nigérien de la Défense. Les précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Selon un communiqué du ministère de la Défense, lu à la télévision nationale, 63 assaillants ont également été tués dans cette attaque lancée aux environs de 14 heures jeudi par des éléments terroristes venus à bord de motos et de véhicules contre le camp militaire de Chinagodré, situé à une 20aine de kilomètres de la frontière malienne. Le communiqué note par ailleurs que la riposte a été menée par les moyens aériens et terrestres de l'armée nigérienne appuyée par ses alliés. Le village de Chinagodré appartient au département de Banibangou, un des 10 départements de la région de Tillabéri sous état d'urgence depuis 2018. Cette attaque intervient presque un mois après celle plus meurtrière d'Inates qui s'est soldée par la mort de 71 soldats nigériens et à la veille du sommet de Pau qui va réunir les 5 chefs d'état du G5 Sahel autour du président français Emmanuel Macron. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La querelle sur les eaux du Nil maintenant, l'Éthiopie et l'Égypte n'ont pas trouvé d'accord hier lors des dernières discussions sur le barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu. C'est une source de tension entre les deux pays. Ekiabadou.
Des responsables éthiopiens, égyptiens et soudanais ont mené 2 jours de discussions à Addis Abeba sans parvenir à un accord, mais ont salué des progrès. Ils avaient déjà assuré de progrès le 22 décembre et de nouvelles discussions sont prévues la semaine prochaine à Washington. Le principal obstacle concerne le remplissage du réservoir du barrage qui peut contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau. L'Égypte craint qu'un remplissage trop rapide ne provoque une importante baisse de débit. L'Éthiopie souhaite remplir ce réservoir sur une période de 4 à 7 ans. Ce grand barrage de la Renaissance est essentiel pour l'Éthiopie et devrait commencer à produire de l'électricité d'ici à la fin de l'année. Le Caire estime qu'une réduction du débit du Nil bleu affecterait quelques 100 millions d'Égyptiens pour leur approvisionnement en eau. 9 années de négociations n'ont abouti à aucun accord. Lors d'une réunion en novembre, les 3 pays se sont donnés jusqu'au 15 janvier pour y parvenir. Si aucun accord n'est trouvé, ils pourraient chercher l'aide d'un médiateur ou confier les négociations à leurs chefs d'État respectifs.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Guerre civile en Libye, le ballet diplomatique s'est accéléré pour trouver une solution à la crise libyenne. La Turquie annonce l'envoi de troupes pour soutenir le GNA, le gouvernement libyen d'union nationale reconnu par l'ONU. Hier, Ankara et Moscou ont appelé à un cessez-le-feu en Libye le dimanche 12 janvier à 0h. Le chef du GNA, Fayez El-Sarraj, s'est félicité de cet appel, sans dire s'il allait s'y confirmer. Dans l'autre camp, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a également salué jeudi l'appel au cessez-le-feu. Mais il a aussi annoncé la poursuite de ses opérations militaires contre les forces pro-GNA. Est-ce qu'un nouveau cessez-le-feu est possible en Libye? Idriss Fall a joint à Benghazi le professeur Abdelkader Kadoura.
C'est très difficile à vous dire exactement s'il est réalisable ou non. Parce que la situation n'est pas encore claire sur le terrain. Parce que tout le monde, l'armée, elle attend qu'il arrive à un résultat concret. Et les autres aussi, ils comptent sur le retard pour recevoir encore d'aide des autres, de l'extérieur. Donc je ne sais pas trop comment ça passera, hein, franchement.
Ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment, la Russie soutient indirectement Khalifa Haftar et la Turquie soutient directement le GNA.
Les choix, ils sont clairs. La Turquie est obligée de soutenir les clémiques. C'est elle qui le soutient d'Ildebe contre la groupe de l'armée qui l'a causé d'être de gauche, qui l'a causé d'être de l'alliance avec la Russie. Et vous avez vu, la Turquie, elle a soutenu l'islamiste en Syrie, elle soutient l'islamiste partout. Parce que ça a beaucoup à dire ça, la symbolique de Erdogan. Je pense que le président Erdogan, il a besoin d'un véhicule idéologique dans le monde arabe, islamique. Alors il a tombé sur l'islamiste, les frères musulmans surtout. Ouah, il appartient à les frères musulmans. Et il pense qu'il peut passer ses affaires par cette... Je sais pas si ça marchera.
Le Caire soutient Khalifa Haftar. Est-ce que c'est une raison de proximité ou bien c'est des raisons géostratégiques?
Le Caire et tout le monde arabe, les grands risques pour eux, c'est l'islamiste. L'islamiste présente les grands risques de stabilité du monde arabe, surtout le pays qui actuellement ne sont pas très stables. L'islamiste, c'est des gens... C'était, vous connaissez ça, c'est un truc compliqué. Ils ont perdu tout. Ils restent la seule chose, c'est gaucher les masses par le discours religieux. Si les masses, elles l'aiment bien, elles l'écoutent bien.
Maintenant, est-ce que les États africains ont le mots à dire, comme par exemple l'Union africaine?
Moi, je pense que l'Union africaine, elle veut jouer un rôle important. Mais je pense qu'il manque les moyens sur le terrain. Si il fait l'alliance avec la France, peut-être ça marchera. Mais comme ça, sur le terrain, je pense que tout seul, c'est pas facile.
Comme vous êtes à Benghazi, qu'est-ce que c'est de vivre à Benghazi actuellement?
Nous sommes depuis longtemps qu'on vit bien en Libye. C'est tout calme, c'est tout maîtrisé. Je pense que le seul problème actuellement de Benghazi, l'armée, elle veut finir avec cette histoire. Mais autrement, on n'a aucun problème de vivre ici. Hein.
Le professeur Abdelkader Kadoura à Benghazi, dans l'est de la Libye. Actualité américaine pour terminer. Au Congrès des États-Unis, la Chambre des représentants, contrôlée par l'opposition démocrate, a adopté jeudi une résolution pour limiter le pouvoir du président Donald Trump de lancer des opérations militaires contre l'Iran. Cette résolution exhortant le chef de l'exécutif à mettre fin à toute action militaire contre l'Iran sans l'accord préalable du Congrès a été adoptée par 224 voix pour et 194 contre. Il semble plus difficile qu'un tel texte soit voté à son tour au Sénat, qui est contrôlé par des républicains soutenant largement Donald Trump. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.